Le catéchisme de ce soir a pour thème maintenant, après la chute et le péché originel, vous êtes arrêté à la page 8 avec l'abbé Grodzinski. En tout cas, je prends à la page 8 par rapport au péché originel. L'humanité pécheresse. Les descendants d'Adam et Ève naissent avec les suites du péché originel, privés de la grâce sanctifiante et portés au mal. La Bible raconte quelques-uns des péchés qui attirèrent les châtiments de Dieu. Caïn et Abel. Abel était pasteur de troupeaux. Caïn, son frère, travaillait la terre. Caïn présenta des fruits en offrande à Dieu. Abel lui aussi présenta des premiers-nés de son troupeau. Dieu regarda Abel et son sacrifice, mais il ne regarda pas Caïn et son offrande. Caïn furent fort irrités et son visage était abattu. Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, regarde-moi. » Si tu ne fais pas bien, tâche de dominer tes mauvais désirs. Et donc, Caïn dit à Abel, son frère, ensuite, après cette remontrance de Dieu, « Allons aux champs. » Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel et le tua. Dieu dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, sois maudit. La terre qui a bu le sang de ton frère ne te donnera pas sa richesse. Tu seras errant et vagabond, pars loin d'ici. » Donc nous sommes dans les débuts de l'humanité et dans la foi biblique, la foi de la synagogue, la foi chrétienne, et même on peut dire dans l'islam, Adam et Ève sont des personnages historiques. Nous avons quitté petit à petit cette foi de manière bien malheureuse, parce que c'est pourtant la vérité. Et nous descendons tous d'un seul homme et d'une seule femme. Nous l'avons déjà vu. Et donc ici, comme je le dis souvent, et là je le dis de manière très simple, les enfants d'Adam et Ève sont conçus donc entre le Tigre et l'Euphrate, en dehors du paradis terrestre qui a été fermé par un ange, par un séraphin, et donc dans l'iconographie que vous pouvez voir dans la vie religieuse, dans les cathédrales, donc, vous voyez un séraphin qui chasse Adam et Ève et qui a une épée de feu. Ils ne vont pas très loin, mais ils ne sont plus dans le jardin d'Éden au sens propre, c'est-à-dire, ils ne sont plus aussi immortels. L'arbre de vie, c'est l'arbre qui leur donnait une nourriture, comme d'autres arbres entre le Tigre et l'Euphrate dans la vallée où ils étaient, mais ils étaient plus particulièrement immortels, impassibles, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas susceptibles de devenir malades, et ils étaient intègres, c'est-à-dire que leur passion était dominée par leur intelligence et leur volonté. Cet état de nature, que certains disent mythique, est tout à fait vrai. Et nous sommes nous-mêmes conscients que nous sommes bien meilleurs que nos tentations et nos péchés. Et nous avons aussi, comme le dit saint Thomas d'Aquin très justement, un souhait d'immortalité. Nous ne sommes pas faits pour mourir. La mort est quelque chose d'horrible pour nous. Nous la refusons, nous la détestons. Et le fait d'être malade ou de vieillir est quelque chose qui nous interroge profondément dans notre nature humaine. Et si dans la religion, il nous est révélé que nous n'étions pas faits pour la mort, Eh bien, cela résonne quelque peu avec ce grand désir qu'a l'humanité de ne pas être malade, de ne pas vieillir et de ne pas mourir. Et ainsi, lorsque Dieu a décrété la mort, c'est à cause du péché, c'est-à-dire de notre capacité à abîmer notre libre arbitre pour choisir le mal, et pas le péché, enfin pas le mal qui nous échappe, inconscient ou par maladresse, mais la malice. Nous savons que c'est mauvais et on le fait quand même, parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous est agréable, ou parce que c'est, si vous voulez, ce n'est pas dans la sensation elle-même. C'est lorsqu'on humilie quelqu'un, c'est pour se donner à soi-même le pouvoir de l'humilier. Lorsqu'on est vexé parce que quelqu'un ne reconnaît pas nos qualités, ou lorsqu'on est vexé parce que quelqu'un nous offense, et qu'on est blessé excessivement, ou nous dit plutôt, pardon, des vérités sur nos défauts, eh bien tout cela, c'est une âme qui est blessée, et par les conséquences du péché originel. Nous sommes privés de cette intégrité qu'il y avait dans notre nature, et cette nature est faite pour cette intégrité. C'était les grâces préternaturelles, voyez, qui étaient autour de notre nature. Et la grâce, au sens surnaturel, c'est l'amitié avec Dieu. Et cette amitié avec Dieu, elle est difficile pour nous. Adam et Ève l'ont perdue. Et nous, pour la retrouver, eh bien, nous sommes véritablement, comment dire, dans un combat spirituel. Mais qui est possible. Et donc, cette manifestation de la puissance qu'a l'homme d'abuser de son libre arbitre, de sa liberté pour faire le mal, eh bien, elle est dans la maladie et la mort. Mais ça, je vous l'ai déjà dit X fois. Mais comme nous sommes tous unis, nous sommes tous frères et sœurs, nous mourrons tous, nous sommes tous malades et nous mourrons tous. Voilà. Les innocents comme les êtres les plus malicieux. Mais cette mort, qui est une punition du péché pour la nature humaine, s'ouvre sur la vie éternelle et le bonheur pour ceux qui sont morts innocents ou qui ont regretté leur faute, et s'ouvre sur la continuité du choix du mal et de la haine pour les autres. Et c'est ce qu'on appelle l'enfer. Alors ici, dans l'histoire biblique, il nous est raconté quelque chose d'assez impressionnant. Parmi les premiers enfants d'Adam et Ève, c'est le premier meurtre, par jalousie. Et une jalousie d'ailleurs qui est liée à la prière, puisque Caïn est vexé que Dieu lui reproche de pécher, d'avoir un cœur envieux, mauvais, et de faire ses offrandes et ses prières de manière fausse. Hein, ce qui se manifeste dans le dessin que vous avez pour ici, avec cette fumée de ses offrandes qui part vers le bas, tandis que la fumée des offrandes d'Abel part vers le haut. Mais voilà que dans le texte biblique, hein, c'est impressionnant parce que Dieu est très bon avec Caïn. Il dit, mais pourquoi ton visage est abattu? Convertis-toi. Et tu seras heureux. Et lui ne veut pas se convertir. Et non seulement il ne veut pas se convertir, mais il tue son frère. Ce qui est assez impressionnant. Et ce qui a été pour Adam et Ève un choc redoutable. Ils ont vu le premier mort. Alors, le résumé qui vous est donné ici, c'est Dieu ne reproche pas à Caïn la qualité de ses présents, mais les dispositions de cœur avec lesquelles il les offre. C'est-à-dire avec sa jalousie envers son frère Abel. Question pour enfants. Caïn et Abel représentent deux sortes d'hommes. Lesquels? Montrer qu'Abel est une figure de Jésus. Pourquoi Abel et Caïn offrent-ils des sacrifices? Mais voyez-vous, je ne peux plus évoquer un lieu d'enseignement qui vous fait perdre un temps considérable en étudiant les textes de la Bible et en vous faussant le message religieux. Mais ces questions sont extrêmement théologiques et ne sont peut-être même pas abordées dans des licences de théologie actuellement. Pourquoi ? Mais parce que ici, Caïn et Abel représentent bien deux sortes d'hommes. Vous avez celui qui est juste et celui qui est malicieux. Ah, c'est possible, il y a des gens qui sont pas malicieux ? Oui. Vous voyez, Rousseau avait tort. L'être humain a en lui cette capacité du mal, cette capacité de faire le mal. Et là où il avait raison, parce qu'il était dans une tradition chrétienne, c'est que l'homme n'a pas été conçu comme cela. Mais, voyez-vous, le bon sauvage, ce n'est pas la société qui abîme l'homme, c'est l'homme tout seul, par son inclination au mal. Montrer qu'Abel est une figure de Jésus, eh bien Abel est juste, et Abel est tué injustement comme le Christ. Et c'est la raison pour laquelle, durant la messe, la prière eucharistique, une, ou le canon romain de la messe Saint-Pie V, il y a cette citation d'Abraham, d'Abel le juste et du patriarche Abraham. Eh bien, Abel le juste, il est cité dans chaque messe. Je ne sais pas si vous en rendez compte que le nom d'Abel est cité dans chaque messe. Alors, dans les prières eucharistiques simplifiées qui ont été écrites dans les années en 1969, mais il n'y a plus le nom d'Abel. Oui. C'est un peu dommage. Et c'est surtout que ce qu'on appelle le canon de la messe, c'est le canon, c'est le roseau. C'est la règle, du coup. C'est ce qu'on suit et qui est tout droit, qui pousse tout droit. Et donc, c'est les événements qui se succèdent dans un ordre. Le canon de la messe, c'est la succession des prières dans l'ordre de la messe. Et donc, ici, Abel se trouve être cité comme une image du Christ. Pourquoi Abel et Caïn offraient-ils des sacrifices ? Mais ça, c'est la religion fondamentale. Et donc, c'est de rendre à Dieu ce qu'il nous donne. Avec les quatre fins de la prière, la première fin de la prière, c'est la fin latrotique, c'est-à-dire d'adoration. On reconnaît que Dieu est Dieu et qu'il est tout puissant. Et nous sommes des créatures. Et nous devons l'écouter et lui obéir, mais pas seulement par superstition, parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il nous aime et que nous devons l'aimer. Ensuite, vous avez l'action de grâce, puisqu'il nous donne la vie et qu'il nous donne tout ce qui est bon dans nos vies. Ensuite, vous avez le regret des péchés. C'est que lorsque nous sommes ingrats vis-à-vis de cette vie qu'il nous a donnée et de tous les dons. Et la quatrième fin de la prière, but de la prière, c'est demander d'autres grâces. Dans le combat spirituel, pour être meilleur, mais aussi de manière un peu intéressée pour guérir d'une maladie, éviter que quelqu'un meure, retrouver du travail. Ce n'est pas indigne, voyez, mais c'est conditionné. Le bon Dieu ne nous donnera pas de grâce si ce n'est pas utile pour notre salut et notre bonheur spirituel. Ça fait 10 ans que je joue au loto et j'ai jamais gagné. J'ai demandé, je mets une bougie chaque jour à l'église pour gagner au loto. Eh bien, tant mieux pour le curé de cette paroisse. Voilà. Mais peut-être qu'un jour il va gagner au loto, mais j'espère qu'il donnera une somme à l'église. Voilà. Alors, voilà, et là vous avez une citation du livre de la Sagesse, « Je n'ai rien de commun avec l'homme qui sèche d'envie. » Le déluge, qui nous prépare à Abraham, hein. « Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. » C'est impressionnant, hein. C'est la Bible, c'est les auteurs sacrés, inspirés par l'Esprit Saint, nous disent cela. Donc les générations qui ont suivi Adam et Ève se sont retrouvées très très vite dans le paganisme, dans le culte de Lucifer et des démons. C'est très impressionnant. Parce que d'abord l'homme est est malheureux de ne pas être parfait, il est malheureux d'avoir à travailler, il est malheureux d'avoir à se défendre contre le froid, là où il fait froid. Il est malheureux d'être malade. Alors, cette peine, au lieu de la porter humblement, eh bien, il va vouloir secouer ce joug et invoquer d'autres puissances que Dieu lui-même. Il va, par exemple, craindre les volcans. Il va craindre les nuages. Il va craindre les tempêtes, les ouragans. Il va craindre les tremblements de terre. Il va craindre le soleil à cause de la sécheresse. Voyez. Et donc, il va personnifier toutes ces choses, les modes de terre. Voyez, ils vont... Et quand il y a des maladies, lorsque les enfants, les petits bébés meurent, et des petits bébés meurent, ben c'est des bras en moins, c'est une vie en moins. Alors, il peut y avoir aussi, bien sûr, l'amour, mais aussi un côté pratique. Et donc, on développe toute une série de superstitions. Voyez, par rapport à Dieu, par rapport à la religion et par rapport à la puissance religieuse. Et donc la vraie religion vous calme et vous dit, prenez patience. Dieu est votre Père, Dieu vous aime, et vous n'avez pas à multiplier les prières comme font les païens, mais vous devez être dans la patience. Et faites résonner un peu plus les bonheurs qui vous arrivent, plutôt que de ressasser toutes les difficultés de vos vies. Oui. Mais au temps des enfants d'Adam et Ève, qui se sont mariés entre frères et sœurs, parce que l'inceste, c'est entre parents et enfants, on peut se marier entre frères et sœurs, on peut se marier entre cousins germains, mais l'interdit de l'inceste s'est appliqué de manière... légal et humainement et à la demande de Dieu aussi entre frères et sœurs pour qu'il y ait la paix dans les familles par rapport aux désirs sexuels et pour que les familles aussi s'étendent. Mais actuellement, l'inceste s'est limité à frères et sœurs. On peut se marier entre cousins germains. Je ne sais pas si vous le saviez, hein, en France, encore plus ailleurs. Et donc, ici, vous avez... entre le Tigre et l'Euphrate, la population humaine qui s'est développée, les uns restent dans la tradition d'Adam et Ève et d'Abel, et les autres sont dans la tradition de Caïn. Et ça devient invivable. Dieu dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et avec les hommes les animaux et les oiseaux, car je me repens de les avoir faits. » Impressionnant. Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé, c'est la septième génération par rapport à Adam, si je ne me trompe. Je me trompe peut-être, c'est par rapport après Noé. Et donc, Noé est un saint homme qui est dans la religion, ce qu'on appelle la religion adamique. Il a trois fils, dont on connaît les prénoms. On ne connaît pas, je crois, le nom de la femme de Noé. Sa femme est vivante, il est monogame, tandis que les autres sont déjà polygames. Hein, les descendants de Caïn sont polygames. Et ses fils sont monogames. Comme dira Jésus, hein, il n'en était pas comme ça dès le commencement, hein, la polygamie. Et donc, c'est Sem, Cam et Japhet, qui sont les trois fils de Noé. Eh bien, apparemment, il n'y avait que 8 personnes en état de grâce sur les générations depuis Adam et Ève. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on compte environ 1000 ans. Mathusalem avait 969 ans. Adam est mort à 930 ans. Alors vous allez me dire, oh là là, vous êtes fondamentaliste, concordiste. Ben, non, parce que c'est les premières générations d'êtres humains, hein. Donc si vous n'avez pas les ancêtres qui vivent un peu plus longtemps pour les enseigner, eh bien, vous n'avez pas de transmission. Vous voyez ? Mais vous allez me dire, à quoi bon cet argument, puisqu'après le déluge, le temps de l'homme sera de 120 ans. Eh bien, c'était pour donner l'occasion à ses descendants d'Adam et Ève de se sauver. Il n'y aura que Noé, son épouse et ses trois fils et leur épouse qui vont se sauver. Et saint Paul le dit explicitement. C'est ce qui nous est transmis par tradition orale, par rédaction de Moïse, qui va écrire, lui qui a été instruit à la cour de Pharaon sur les écritures, sur les langues, c'est lui qui va mettre par écrit la tradition orale. Vous voyez, vous avez des gens qui malheureusement tombent dans des errements et qui disent « oui, mais non, la Bible, ça a été pris de ci, ça a été pris de ça, ces différentes traditions orales, mais il n'y a pas une vérité qui est venue. » Par exemple, les Sumériens avaient déjà le déluge, avaient ceci, avaient cela. Donc c'est eux qui ont la religion principale, les Sumériens. Non. Moïse, enfin les Sumériens avaient la tradition adamique. Donc ils en parlent. Mais ensuite, ils deviennent idolâtres. Moïse, lui, va avoir la tradition adamique sans idolâtrie. Vous avez un bouquin entier de M. Jovanovic, qui est connu pour d'autres, pour des considérations économiques de nos jours, et qui a fait des livres sur 777, 666 et autres, qu'un certain nombre de personnes un peu traditionnalistes connaissent. Eh bien, malheureusement, il est hérétique sur tel ou tel point, et il fait des livres là-dessus. Il a fait un très bon livre sur les anges, mais dans ce livre sur les anges, vous avez des moments qui sont plutôt du spiritisme, de la relation avec les anges qui finissent par des relations avec des démons. Et donc, il a fait un livre en disant « la Bible, c'est une tradition hébraïque qui est pas la meilleure, les Sumériens, c'était meilleur. » Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais c'est pas parce que vous avez des vérités qui sont déformées dans des fausses religions qu'on ne doit pas garder la vérité. Dieu lui dit, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération. Donc il avait prévenu, 40 jours, lui il avait construit l'arche sur 40 jours ou 50 jours, avec du bois, du bitumé. De tous les animaux purs, tu en prendras 7 de chaque espèce, des mâles et des femelles, et aussi des oiseaux du ciel. 7 de chaque espèce, mâles et femelles, pour perpétuer la race sur la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Alors c'est, vous avez, le concordisme justement, va dire que c'est toute la surface de la terre qui a été noyée. Et la tradition catholique vous dit, c'est le... là où s'étaient développés les premiers hommes, Adam et Ève et leurs enfants. Donc une plaine, c'est-à-dire que c'est toute la plaine du tigre de l'Euphrate qui va être noyée, et tous les animaux et les oiseaux de cette plaine qui vont être préservés de la mort pour qu'il y ait, après cette inondation épouvantable, que la vie puisse reprendre dans la plaine où ils se trouvent. Et Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné, et Dieu ferma la porte de l'arche. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge vinrent sur la terre. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. Tout ce qui était sur la terre mourut. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Donc là, la Bible dit la terre, mais c'est la terre connue. Voyez. Donc il voit à perte de vue l'eau monter et tout noyer. Voyez-vous, mais ce n'est pas, c'est parce que c'est l'observation, voyez-vous, et la tradition orale de ce qui a été vécu et vu. Mais de là à ce que toute la terre, l'eau est montée sur toute la terre, Greta Thunberg n'était pas vivante à cette époque-là, voyez. Non, faut pas penser que la planète va mourir comme ça. Nous sommes un confetti sur la terre. Tout ce qui était sur la terre mourut. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche et il lâcha un corbeau qui alla et vint jusqu'à ce que les eaux aient séché la terre. Alors Noé lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient diminué. Alors là, il y a une faute de frappe, sécher la terre. La colombe, ne trouvant pas un endroit où se poser, revint vers lui. Il étendit la main, la prit et la fit rentrer dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe. La colombe revint vers lui sur le soir, portant dans son bec un rameau tout frais d'olivier. Donc ça veut dire qu'il y avait des oliviers dans la plaine du Tigre de l'Euphrate, et qu'un olivier a pu enfin, au bout de 40 jours de séjour sous l'eau, avoir des branches qui étaient à l'extérieur. Et donc, ce récit biblique est quand même important, puisque dans la tradition humaine, ça signifie la fin d'une épreuve, la paix. Une colombe avec dans son bec un rameau d'olivier. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus. Noah enleva la couverture de l'arche. Il regarda et vit que le sol était sec. Il sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Noé construisit un autel à Dieu, il prit des animaux et offrit des holocaustes. Dieu en respira l'agréable odeur et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Je mets mon arc dans la nuée et il sera comme un signe d'alliance entre moi et la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. Et à partir d'eux se fit le peuplement de toute la terre. Les Sémites, les Cananéens et les descendants de Japhet qui sont considérés grosso modo comme les Caucasiens. Oui. Quelle famille fut sauvée du déluge? Celle de Noé. Et pourquoi? Parce qu'il était, juste. Que fit Noé dès sa sortie de l'arche? Il rendit grâce à Dieu. Comment le déluge manifeste-t-il la toute-puissance de Dieu? Eh bien, c'est une punition divine qui est temporaire, qui commence et qui s'arrête. Et alors, ceux qui aiment beaucoup la numérologie, qu'elle soit saine ou malsaine, vont regarder le septénaire sacré, les 40 jours, et en effet, ensuite, vous avez les temps de pénitence sont de 40 jours. Le Christ va jeûner 40 jours, Moïse va être 40 jours sur la montagne du Mont Sinaï. Comment le déluge, voilà, et sa justice. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit le psaume 94, verset 8. Le brillant arc-en-ciel forme une magnifique auréole au Seigneur, dont la souriante et paternelle bonté exprime la satisfaction que lui procure le sacrifice de Noé. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que ceux qui détestent, qui sont très ironiques et ceux qui jouent beaucoup avec la religion, ils disent, oh, quel Dieu d'amour! Vous voyez, mais c'est merveilleux, il a noyé tout le monde, donc imaginez un peu, je ne sais pas, il y a eu peut-être 2000, 5000 personnes qui sont mortes. N'oubliez pas que, comme les Hébreux, quand ils sont en Égypte, les femmes pouvaient avoir jusqu'à 20, 25 enfants dans leur vie. Vous avez en France, encore au 19e siècle, des femmes qui avaient 17 enfants. Vous allez me dire, mais il y en avait peut-être 10 qui mouraient en bas âge. Oui, mais si vous voulez, quand il y a une fécondité, l'espèce humaine peut se développer extrêmement. Et donc, mais quelle cruauté de la part de Dieu d'avoir noyé toutes ces personnes et dont des bébés. Mais si vous voulez, Dieu lui prend les innocents, les juge. Il prend les coupables et les juge. Voyez, d'où l'expression méchante qui a sans doute jamais été prononcée, « Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens ». C'est méchant parce qu'on est là, on est en train de tuer des ennemis, qu'on a, ou des prisonniers. Mais c'est vrai que théologiquement, cette phrase est vraie. C'est dans le sens, mais dans un sens de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il reconnaîtra les siens de ceux qui sont bons, non pas ceux qui sont catholiques ou cathares, mais ceux qui étaient en état de grâce. Parce que parmi, si vous voulez, dans une querelle politique entre le roi de France et le comte de Toulouse, avec l'occasion du catharisme pour se faire la guerre, ceux qui meurent dans toutes ces cruautés humaines, les uns ont été sauvés, les autres ne se sont pas sauvés, mais parce que ils n'étaient pas en état de grâce, ils étaient mauvais, méchants. Et donc les punitions divines, on ne doit pas en avoir peur. Actuellement, lorsqu'on lit l'Apocalypse, on se dit, à un moment donné, cette miséricorde va s'arrêter. Oui, Mais alors, il a dit qu'il n'y aurait plus de punition, il n'y aurait plus de peine. Ben, il a dit que l'histoire humaine serait sans punition à l'égal du déluge jusqu'à la fin. Mais à la fin, Dieu a révélé que ça serait apocalyptique. Mais c'est seulement à la fin. Et après, il y a la résurrection des morts. Donc Dieu quand même peut se permettre de se mettre en colère à la fin, fin. Parce que sur les 7 milliards d'hommes, si c'est dans 5 ans, ou sur les 10 milliards d'hommes, si c'est dans 50 ans, quand Dieu arrêtera l'histoire, c'est parce qu'il y aura trop de péchés sur terre. Et que les enfants ne pourront plus grandir paisiblement. À 3 ans, 5 ans, on m'a dit, alors tu veux être un garçon ou tu veux être une fille? Alors tu veux te marier avec Paul, Jacques? Toi, Martine, tu veux te marier avec Paulette? Alors ça, ce n'est qu'un exemple. Mais là, je peux encore en plaisanter. Mais un jour, je serai mis en prison pour faire cette plaisanterie, parce que ça serait une offense. Et c'est le moment de vous dire quelque chose de relativement important. Pourquoi les homosexuels agressifs ont pris l'arc-en-ciel comme symbole? C'est Dieu ne nous punira pas, il l'a promis. Nous pouvons faire comme Sodome et Gomorre, mais Dieu ne nous punira pas. C'est biblique, hein, de prendre l'arc-en-ciel comme symbole du combat LGBT. Alors que ceux qui ont cette épreuve d'avoir une attirance pour leur sexe, eh bien, pendant des siècles et des siècles, en dehors de la dureté de leurs contemporains, qui étaient très méprisants et parfois très violents vis-à-vis d'eux, eh bien, eux n'étaient pas dans la revendication, mais dans l'humilité, et vivaient avec cette épreuve et n'en faisaient pas étalage. Mais vous avez des hommes hétérosexuels et des femmes hétérosexuelles qui ont d'autres épreuves dans leur vie et qui n'en font pas étalage. Et on parle beaucoup des homosexuels, mais on oublie que vous avez des gens qui sont très attirés par les jeunes filles et qui, je sais pas, ont 60 ans, mariés et qui, comment dire, sont vraiment très très troublés et obsédés par des filles de 20 ans. Vous dites oui, mais c'est plus naturel. Oui, mais enfin, à 60 ans, marié, est-ce qu'à un moment donné, notre instinct sexuel peut pas un peu se calmer? Et quand vous avez un instinct sexuel qui est tyrannique et qui fait que pour raison d'éducation, pour raison d'événements dans vos vies, fait que vous êtes attiré plutôt par votre sexe que par le sexe opposé, eh bien, c'est une épreuve. Mais Dieu nous prévient de ne pas entrer dans ce chemin et d'être chaste. Et l'Église a encore le droit, et ce n'est pas encore censuré. Le catéchisme de l'Église catholique dit que c'est intrinsèquement mauvais d'avoir une sexualité homosexuelle et qu'il nous faut vivre chastement. Mais le catéchisme de l'Église catholique nous dit bien d'être extrêmement précautionneux et bon avec des personnes qui ont ces tentations-là. Mais il y a bien d'autres péchés ou bien d'autres tentations. Parce que la tentation n'est pas un péché, figurez-vous, dans la vie humaine. Vous avez des gens qui sont extrêmement troublés par le fait de ne pas être assez riches et qui vont déchirer des familles entières pour des questions d'héritage, pour des questions de répartition. Ça commence même par de l'argent de poche. On en rit, mais il ne faut pas en rire. Vous avez des frères et sœurs qui vont être profondément vexés. Parce qu'ils estiment que l'un est favorisé par rapport à l'autre. Mais de manière extrêmement méchante. Hein. Et ça peut aller jusqu'à ne plus jamais se parler, ne plus manger ensemble. Ça, c'est un vrai, vrai péché. Hein. D'aller voir une prostituée, ou qu'une femme couche avec une femme, ou qu'un homme couche avec un homme, par rapport à celui qui, comment dire, qui va détruire la paix et l'harmonie d'une famille, qui va faire un procès pour un héritage, je ne sais pas qui le sera le plus, comment dire, celui qui offense le plus Dieu. Babel, page 11. Donc alors là, voyez-vous, on passe vite sur un épisode de Noé qui découvre pour la première fois le vin. Donc ça veut dire que d'Adam et Ève jusqu'à Noé, on n'avait pas découvert le vin. Donc on a péché à mériter le déluge sans s'enivrer. Noé ne savait pas ce que c'est que le vin. Il avait du jus de raisin, il a fermenté, il en a bu. Il a dû trouver ça un peu acide, ou non, bon. Et il était ivre-mort. Et donc il est sorti de sa tente en titubant et nu. Son manteau était tombé, ou sa tunique était. Et là, vous avez Cam qui revient de la chasse et qui voit son père tout nu et qui se moque de lui. Et là, vous avez Sem et Japhet qui arrivent, qui prennent le manteau, la tunique de Noé et qui, à reculons, le manteau étendu, couvrent leur terre. Et quand leur père a dégrisé, n'est-ce pas, et qui retrouve ses esprits, on lui raconte l'épisode, et il est furieux. À l'époque, je pense que, comment dire, c'était patriarcal au dernier degré. Hein. C'était des gens entiers. Hein. Ils ont dû faire des sacrifices humains déjà avant les autres, hein, donc c'était viril. Hein. Donc il dit, puisque Dieu t'a béni à la sortie de l'arche, je ne peux pas te maudire, mais que ta descendance soit maudite. Vous avez Cam avec son épouse, ils sont là, on est habillé pour l'hiver. Et donc, Canaan, le fils de Cam, est maudit. Alors du coup, vous avez à travers les siècles des peuples qui disent « Ah, non, les Cananéens, ils sont maudits ». Alors comme des Cananéens est sorti, les Africains, sont sortis les Africains, vous avez des protestants d'Afrique du Sud qui profitaient de leur cynisme d'utiliser la main-d'œuvre africaine d'Afrique du Sud et qui théorisaient leur dureté et leur ségrégation par rapport à la malédiction de Canaan. Ça, c'est une belle interprétation protestante de la Bible. Et qui n'a rien à voir avec le catholicisme et qui n'a rien à voir avec la vérité. Même si des catholiques ont pu être racistes vis-à-vis des Africains. Mais ils pêchent. Et ils vont pas essayer de se justifier devant l'histoire et devant l'enseignement de l'Église.